Dit avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix et vous êtes encore nombreux ce matin à souhaiter prolonger notre débat d'hier après la surprenante annonce de l'opposant tchadien Succès Masra. Rappelez-vous, il avait contesté les résultats de la présidentielle de mai dernier, il a ensuite boycotté les législatives de décembre et voilà qu'il se dit désormais prêt à travailler avec le président Mahamat Idriss Déby. Bonjour Josué.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Tchad, vous souhaitiez prendre la parole dans la Libre Antenne, vous l'avez. Que pensez-vous de ce revirement de situation? Il y a le coq derrière vous, Josué.
Le Succès Masra aurait nous épargné de salive, d'encre et même des vies humaines depuis le début de la transition au Tchad. Et il ne l'a pas fait. Il a appelé à manifester le 20 octobre où il y a beaucoup de morts et dans la ville de Moundou où je me trouve. Et aujourd'hui, Succès Masra même revient pour être Premier ministre. Il est parti aux élections. Après, il ne reconnaît pas les résultats. Et de fait, il a boycotté encore les législatives. Pour moi, les élections couplées du 29 décembre, oui. Si les transformateurs se présentent, beaucoup de gens vont être des députés, des maires et des conseillers provinciaux. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il revient pour accepter le pouvoir en place. Je pense que Succès Masra ne se soucie pas de ses militants.
Vous avez l'impression qu'il ne pense qu'à lui, à sa carrière politique?
Oui, il ne pense qu'à lui seul. Parce que là, l'accord où il a signé avec le gouvernement en acceptant la main tendue, lui, certainement, il va faire partie du gouvernement avec quelques membres. Mais c'est des milliers de Tchadiens qui le suivent. Succès ne fait que penser qu'à lui-même. Il ne voit pas l'intérêt de la population tchadienne qui a trop souffert et compte sur lui, mais franchement dit...
Vous dites qu'il ne voit pas l'intérêt de la population. Lui-même, dans son discours cette semaine, il dit vouloir se rapprocher, justement, dans le souci de consolider la paix. Il se dit disponible, donc, pour travailler avec le président pour la stabilité du pays, pour le développement du Tchad. Pour vous, ce ne sont que des slogans politiques, finalement. Vous n'y croyez pas une seconde.
Non, je ne crois pas. C'est des slogans politiques. Combien de gens il a privé d'être député au Tchad quand on sait qu'une famille qui travaille nourrit combien de bouches? Et ceux-là qui ont Succès à priver d'être des députés, des maires, des conseils provinciaux, non. Succès ne pense à lui et à lui seul, par sa politique. Donc,
Josué, ne raccrochez pas. Je vous présente Abakar qui est à N'Djamena. Bonjour Abakar.
Bonjour Jean Gomez.
Contrairement à Josué, puisque tous les avis s'expriment évidemment dans cette émission, vous au contraire, vous saluez cette décision de Succès Masra. Il a bien fait de se rapprocher de Mahamat Idriss Déby donc.
Oui, personnellement je crois que la décision qu'a prise Dr Succès Masra est à saluer. En fait, on ne peut pas vouloir la paix sans toutefois casser les œufs. Succès Masra, c'est ce qu'il cherche. Aujourd'hui, Succès Masra représente une figure emblématique dans la politique tchadienne. On ne peut jamais parler de la politique tchadienne aujourd'hui sans Succès Masra. Et donc, il est impératif...
Oui, mais en même temps, excusez-moi, Abakar, personnalité incontournable de la scène politique tchadienne, certes, mais on ne connaît pas son véritable poids, puisqu'il a boycotté notamment les dernières élections législatives. Donc, il n'y a pas un seul député du Parti Les Transformateurs dans les rangs de l'Assemblée nationale. Donc, on ne connaît pas véritablement son poids. Mais si, à vous entendre, il est le principal opposant. Si le principal opposant travaille aujourd'hui avec le président de la République, quid de l'opposition au Tchad, du coup?
Bon, qui dit opposition ne dit pas forcément être ennemi ou encore en dehors de la scène majoritaire. En fait, le seul défaut qu'a connu Succès Masra, c'est de n'avoir pas participé à ces élections couplées du 29 décembre. Et là, je dirais qu'il a étouffé dans l'œuf ses camarades militants qui, peut-être, certains d'entre eux ont l'ambition de devenir député autre. Mais sinon, en politique, il faut reconnaître qu'à un moment donné, on est obligé de collaborer avec le régime en place si seulement on ne voit pas des graves rêves qui se glissent quelque part. Mais sinon, je crois que sa décision est à saluer.
Bon, vous saluez cette décision. Va-t-il négocier un poste? Un poste.
Pas forcément. Revenir collaborer avec le régime en place ne veut pas forcément dire qu'il revient pour négocier un poste. Et bien évidemment, même s'il négocie un poste, il est après tout un Tchadien. Et comme il l'a bien dit dans sa déclaration, il est guidé par l'idée républicaine qui lui conduit aujourd'hui à reconnaître les institutions de la République.
Ouais. Alors, oui. Des institutions qu'il critiquait il y a encore deux mois au micro de RFI en disant qu'elles étaient illégitimes. Donc voilà, on peut comprendre que certains de ses sympathisants, partisans soient un peu déboussolés. Tantôt, il dénonce les institutions, trois jours plus tard, il les reconnaît. Bon, bah voilà, certains sont un peu perdus dans les rangs du Parti des Transformateurs. Abakar, merci à vous, bonne journée à N'Djamena, merci à Josué qui nous a contacté de Mundu, dans le sud du Tchad. On va parler d'un autre sujet qui a suscité là aussi des réactions tout au long de la semaine au standard RFI et sur nos réseaux sociaux, ce rapport rédigé par des chercheurs historiens français, camerounais, sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais. Les auteurs confirment que la France a bien mené une guerre marquée par des violences extrêmes. Voilà ce qu'on peut lire dans ce rapport. Une guerre qui s'est poursuivie d'ailleurs après l'indépendance en 1960. Certes, les troupes camerounaises étaient au front, mais elles étaient placées sous le commandement d'officiers de l'armée française. Donc la France a continué à commettre ses exactions jusqu'en 1971. Charles, vous êtes à Bafang, dans la région ouest du Cameroun. Bonjour Charles.
Bonjour Juan.
Alors, qu'attendez-vous de ce rapport ? Et que vous inspirent les conclusions qui ont déjà été rendues publiques?
Ce rapport nous a d'abord agréablement surpris. Il a révélé beaucoup, beaucoup de choses qu'on croyait étaient à jamais. Ce rapport, nous attendons tout naturellement une reconnaissance, une réparation de la France. Mais nous ne pouvons pas jeter l'anathème seulement sur la France. Mmh. Les autorités camerounaises de l'époque y avaient aussi pour beaucoup. Parce qu'on parle de guerre d'indépendance. Si c'était une guerre d'indépendance après l'indépendance, en 1960, la guerre devait s'arrêter. Mais elle a continué. Non, c'était plutôt une lutte pour imposer un régime politique au Cameroun, dont ce régime, même après l'indépendance, a continué à faire taire toute voix dissidence jusqu'en 1971. Nous attendons des autorités camerounaises une réhabilitation de ces martyrs.
Réhabilitation, quand vous dites de ces martyrs, réhabilitation notamment des leaders des mouvements indépendantistes, et on pense évidemment à Ruben Omnioubé, assassiné en 1958, il y en a eu d'autres après, hein, en 60, il y a évidemment Félix Roland Mounier, mais il faut réhabiliter ces hommes.
Oui, oui, je vais vous prendre un exemple. À Bafoussam, où a été assassiné ou exécuté le dernier des maquisards, Ernest Wandi, en 1971. Ce carrefour s'appelle Carrefour Maquisard. Or, un maquisard au Cameroun veut dire un terroriste de grand chemin. Ce carrefour peut prendre le nom Carrefour des Martyrs. On peut mettre cette histoire dans les livres d'histoire, les enseigner à l'école. Ma maman fait partie de la dernière génération de ceux qui ont vécu cette histoire. Elle avait 10 ans à l'époque. Et ils sont en train de mourir. Tous ces aînés sont déjà morts. Bientôt, on ne saura plus ce qui s'est réellement passé à cette époque.
Donc il faut absolument que cette période de l'histoire intègre les programmes scolaires. C'est d'ailleurs ce que recommandent les historiens qui ont rédigé ce rapport dans les programmes scolaires camerounais, mais aussi français. Hein. Ils insistent évidemment sur ce point. En deux mots, Charles, parce qu'il y a d'autres auditeurs et sur d'autres sujets, vous avez parlé, si j'ai bien compris au départ, de dédommagement, de réparation, c'est ça ?
Oui, oui.
Qu'entendez-vous par des réparations de la part de la France ?
Nous voulons d'abord une reconnaissance, des excuses, parce que quand on parle de guerre, c'est une armée contre une autre. On avait une armée face à une milice armée de machettes, de goudets et de fusils de chasse. C'était un massacre. Ça doit être reconnu comme tel.
Donc des excuses officielles de la part de la France ?
Oui, oui. Si on veut dédommager, il y a des familles qui ont complètement disparu. On va dédommager qui ?
Merci Charles de votre analyse, de votre réaction. Merci de votre confiance. Bonne journée à Bafang. Il est 9h49 à Paris. C'est la Libre Antenne. Vous réagissez à l'actualité de votre choix. C'est l'un des sujets marquants de la semaine. Hein. L'avenir des relations entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la CEDEAO, puisque ces trois pays ont officiellement quitté l'organisation ouest-africaine ce mercredi. Bonjour Idrissa.
Oui, bonjour.
Vous nous suivez ? Bah, écoutez, très très bien. Je suis ravi de dialoguer avec vous. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et vous disiez en substance au standard que bah, la date de mercredi dernier, à savoir le 29 janvier 2025, restera pour vous un jour historique.
Exactement. Et pour moi, je pense que cette sortie n'aura qu'effet que, en fait, aussi des relations militaires. Hein. Pour moi, déjà, j'ai vu hier déjà qu'il y a la CEDEAO qui a communiqué comme quoi, en fait, les passeports restent valides et ils tiennent aussi à la libre circulation des personnes et des biens dans leur espace. Et je pense que l'AES avait déjà fait le pas en disant que, en fait, eux aussi, ils sont dans la logique de pouvoir prôner la libre circulation des autres peuples dans leur région. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste, en fait, la question militaire qui fait la différence. Sinon, sur toutes les questions économiques et autres, on ne verra pas certainement, en fait, un changement notable comme les gens, en fait, attendent de voir peut-être qu'il y ait peut-être des fermetures de frontières. Moi, je n'y pense pas. Je ne pense pas que ça va être ainsi.
Mais donc, c'est plutôt une bonne chose.
C'est une bonne chose. Et pour moi, j'ai dit que la sortie de ces trois pays de la CEDEAO est une chance, non seulement pour la CEDEAO, mais aussi pour les peuples de l'AES.
Parce que alors, expliquez-nous en quoi c'est une chance pour vous, Idrissa, en tant que Burkinabé, de ne plus être membre de la CEDEAO.
Ok. Je dirais qu'aujourd'hui, le fait que je ne sois pas membre de la CEDEAO, pour moi, de manière économique, en réalité, ne changera rien. Pour moi, l'AES est juste, en fait, au côté, c'est le domaine militaire qui est mis en avant. Aujourd'hui, si vous regardez, depuis aujourd'hui la création de l'AES, il n'y a pas eu, en fait, aujourd'hui, des décisions, en fait, menant, en fait, à restreindre ou bien, aujourd'hui, à exclure de nos pays-là, en fait, les autres pays membres de la CEDEAO.
Oui, mais bien sûr, parce que jusqu'à mercredi, vous étiez officiellement encore membre de la CEDEAO. Depuis mercredi, vous ne l'êtes plus. Donc, il va y avoir des discussions, des négociations entre l'AES, les trois pays, donc Mali, Burkina, Niger, et le reste des membres de la CEDEAO. Discussions sur tous les points économiques, financière, etc., etc. Donc, mais bon, vous dites que c'est une chance. Restez en ligne, Idrissa, parce que je vous présente Adama. Bonjour, Adama.
Bonjour, RFI.
Vous êtes à Dakar, mais Idrissa est en quelque sorte un peu votre compatriote, hein, puisque vous êtes à la fois, c'est ce que vous disiez au standard, hein, je lis ma petite fiche, burkinabé et nigérienne.
Oui, tout à fait.
C'est
bien
ça. Je
suis de père burkinabé et de mère nigérienne.
Et vous vivez à Dakar, au Sénégal. Vous souhaitiez prendre la parole.
Je réside au Sénégal.
On vous écoute,
oui,
Adama.
Oui, tout à fait. Alors, si pour lui c'était une journée, je ne sais pas, de joie, pour moi ça a été une journée terrible de malheur. Parce que vraiment, être dans une association comme ça d'État séparatiste, alors qu'on se dit panafricain, ça me pose un problème. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu de référendum, personne ne m'a interrogé, personne n'a demandé mon avis, ni l'avis des représentants que j'ai votés dans les assemblées nationales, parce que après les putsch, tout a été dissous, alors que moi, j'ai voté pour des représentants, des gens qui peuvent se prononcer à ma place. Donc, pas de référendum pour interroger les populations. Pas d'interrogation, de consultation des assemblées nationales.
Donc ça a été une décision unilatérale des putschistes.
Ah oui, c'est une association d'État séparatiste, point. Voilà, c'est comme ça le A et le E et le S pour moi. Mais en fait, si j'ai appelé, si j'ai voulu intervenir ce matin, c'est parce que justement depuis mercredi, comme l'a dit Idrissa, la CEDEAO a dit « je maintiens la libre circulation des personnes et des biens ». Dans les biens, il y a les véhicules. Dans les personnes, il y a les passagers et les conducteurs de ces véhicules. Et en même temps, la CEDEAO dit « je suspends l'assurance de la carte brune ». C'est cette assurance automobile qui permettait depuis plus de 40 ans aux populations de la CEDEAO de pouvoir être couverts d'un pays à un autre. Et nous savons que c'est des populations qui circulent énormément. Moi, je vais tout le temps passer mes vacances avec ma voiture dans soit mon pays au Burkina, soit au Niger. Et imaginez un peu sans carte brune.
Bien sûr, ça peut sembler anecdotique, mais effectivement, vous appuyez là où ça fait mal, puisque c'est vrai que cette assurance carte brune n'est plus valable. Et donc,
elle
n'est
plus valable.
Allez-y, pardon.
Voilà. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on met 400 millions de personnes en danger. Mmh. On expose 400 millions de personnes. Aujourd'hui, s'il y a un véhicule qui quitte la zone donc de l'association des séparatistes pour venir dans les pays de la CEDEAO et qu'il y a un accident, qui va couvrir ? Que ce soit des dégâts corporels ou matériels.
Bon, en tout cas, je n'ai pas la réponse à votre question, Adama, mais merci de nous avoir interpellé sur ce point très très précis. Bonne journée à Dakar. Je remercie Idrissa hein, qui nous suit sur les réseaux sociaux. À Ouagadougou, j'en perds ma voix. Il est temps que la semaine se termine pour que je puisse la reposer un tout petit peu. On va parler football. On connaît depuis lundi soir, les groupes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort a eu lieu lundi. Olivier Pron était sur place pour les commenter en direct. Bonjour Alpha.
Bonjour.
À Abidjan. Et comme beaucoup de passionnés du football, vous avez suivi ce tirage au sort. Alors Abidjan, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle est tombée sur un groupe assez costaud, non ?
Oui, costaud, mais prenable.
C'est-à-dire prenable. Il y a le Cameroun, le Gabon, oui. Le Mozambique. Bon, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le Mozambique et le Gabon... Mais il y a le Cameroun quand même, excusez-moi.
Oui, le Cameroun n'est pas une foudre de guerre pour la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a un passé glorieux, certes, mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, la Côte d'Ivoire est quand même une nation très présente. Elle est déjà championne d'Afrique, trois fois, sur 10 années consécutives. Bon, donc c'est quand même une carte de visite assez impressionnante qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de tenir tête à n'importe quelle équipe sur le continent sans problème. Voilà.
Ouais, c'est vrai que les deux équipes ont des atouts, mais c'est vrai que quand on voit le parcours du Cameroun lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on se dit comme ça sur le papier que les éléphants de Côte d'Ivoire ont beaucoup plus de chances. En tout cas, c'est vrai que ce sera le match choc de la phase de poule avec un autre match Sénégal-RDC. Il me semble qu'on avait un supporter camerounais. Henri est avec nous ou pas ? Henri, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les supporters des Lions Indomptables.
Vous êtes à Douala, au Cameroun. Qu'avez-vous envie de répondre à Alpha qui est convaincu que les éléphants vont battre les Lions Indomptables ?
Bon, moi je suis pratiquement amusé. Il sait, avec la peur dans le ventre que les Lions Indomptables reviennent revanchards. Après des épisodes ratés, nous savons pertinemment que l'équipe se met progressivement en place et il y a de quoi avoir peur pour les Ivoiriens.
Ouais. En même temps, bon, soyons francs, Henri, c'est vrai que les guéguerres entre la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports, ça complique un peu la préparation de l'équipe.
Oui, ça complique la préparation de l'équipe, mais historiquement, les Lions Indomptables, lorsqu'ils sont généralement face à ce genre de situation, c'est effectivement là où ils performent beaucoup. Souvenez-vous de plusieurs épisodes où les Lions Indomptables ont été dos au mur, une organisation négative, mais ont pu remporter plusieurs compétitions. Je pense que les Lions Indomptables, ils aiment ce genre de défis et ils vont vraiment prouver qu'ils le sont de retour.
Ouais. Alpha, vous avez envie de réagir ?
Oui, bon, c'est la belle famille. Vous savez, avant la compétition, on a toujours eu ce challenge. Mais bon, moi, je pense que la Côte d'Ivoire a eu une progression que tout le monde a vue. Aujourd'hui, il y a une mentalité de fighting spirit dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous savez, durant la compétition l'année dernière, elle a toujours remonté ses scores. Et à gagner au finish. Ouais. Ça, c'est quand même nouveau dans l'équipe ivoirienne.
Je précise que la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en phase de poule d'une CAN, c'était en 2015, il y a donc 10 ans. Et à l'époque, la Côte d'Ivoire avait battu le Cameroun.
Ah oui, c'est maintenant.
C'était il y a 10 ans.
Oui, il y a 10 ans, voilà, comme je le disais. Et à cette occasion, la Côte d'Ivoire est allée très loin. Est-ce qu'elle n'a pas remporté la Coupe,
si mes souvenirs sont bons. Si, tout à fait. C'est là où elle a décroché sa deuxième étoile.
Voilà, des hommes étoiles, donc le Cameroun n'est pas vraiment une foudre de guerre. Nous allons l'affronter et bon, c'est sûr que c'était tellement qu'elle va prendre ses points ailleurs, mais pas avec la Côte d'Ivoire.
Je ne doute pas qu'Henri a envie de prolonger la discussion, mais malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous pour cette bonne libre antenne. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On sera de retour évidemment lundi, 8h10, temps universel, avec vos questions à la rédaction. Et puis, en deuxième partie, nous parlerons de la Guinée, de la transition en Guinée avec cette question. À quand les élections? Oui, le général Doumbouya a promis une année 2025 chargée d'élections. Seulement voilà, il y a deux jours, Ousmane Galawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, a émis des doutes.
Banque Atlantique vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité. Ensemble en 2025. Banque Atlantique.